Loin d'être un film, vous êtes sur la Soulaba FM 105. Il est 10h et quelques poussières de secondes. L'émission qui commence à l'instant, c'est Cuisinez-moi. Tous les dimanches, c'est devenu un rendez-vous avec tout l'auditoire de Douala et des environs sur la 104.9. La grande équipe de production pour ce matin encore est constituée de Jeanne Guéa à la régie d'antenne. Samuel Maud assure à la mise en onde. Guillaume Onambélé et Laurent Loé sont nos réalisateurs. Dans ce studio, pour vous servir, je suis Franck Jam et nous recevons dans notre cuisine ce dimanche une haute personnalité de l'intelligentsia du Cameroun et de l'Afrique centrale, j'allais dire, de la planète tout entière. Le professeur Emmanuel Kamdem nous fait l'honneur de passer par nos cuisines. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Vous êtes prêt à être cuisiné?
Oui, tout à fait.
Vraiment prêt?
Oui, c'est pour ça que je suis là.
Ah d'accord, j'espère que vous n'allez pas nous donner une leçon, un cours magistral au sortir de cette cuisine.
Non, j'ai répondu à votre invitation pour cet échange, j'espère, fort utile pour nos auditeurs.
Échange fort utile pour nos auditeurs. N'oubliez pas, à partir de 11h, vous pourrez nous appeler au 233 42 60 60 pour poser des questions au professeur Emmanuel Kamdem, qui, je rappelle, est professeur titulaire des universités et directeur de l'ESSEC de Douala. Bienvenue sur Cuisinez-moi.
Merci.
Ma dire 105 FM.
C'est également la balade du dimanche entre 10h et 12h, Cuisinez-moi. Nous sommes sur la Suelaba FM 105. Nous allons aller à la découverte de notre invité de ce matin. Je l'ai dit, c'est le professeur Emmanuel Kamdem qui est toujours avec nous. Rebonjour, professeur.
Bonjour.
Des indiscrétions nous ont fait savoir dans Cuisinez-moi que vous sortiez d'un long périple.
D'un long périple en termes de travail. Oui, c'est en termes de déplacement, de mobilité, à la fois nationale et internationale.
Toujours en train de travailler, le professeur Kamdem glorifie le travail.
Oui, toujours en train de travailler. C'est un plaisir de travailler, d'être utile, surtout quand on a en face de soi des jeunes qui préparent leur avenir. C'est tout un enthousiasme.
Et qui en redemandent.
C'est avec enthousiasme que personnellement je contribue à la préparation de l'avenir de tous ces jeunes.
Emmanuel Kamdem n'aspire donc pas au repos?
Le repos, vous savez, quand on est scientifique universitaire, tant que par la grâce de Dieu, on peut continuer à réfléchir, on peut continuer à écrire, on peut continuer à penser, on peut continuer à partager ses connaissances, ses expériences avec les autres. Le repos, on n'y pense pas aussi rapidement.
Alors nous allons aller à votre rencontre avec votre moi, qui est le professeur Emmanuel Kamdem. Vous savez quand même que beaucoup d'étudiants se font une image de l'enseignant, du directeur que vous êtes. Et ça vous donne quelle perception d'entrée de jeu?
L'image, je crois chacun peut avoir son image d'une personne et je respecte toutes les images, les perceptions, les représentations que les uns et les autres ont de moi et j'accepte cela comme tel.
D'accord. Nous rentrons dans l'apéro, c'est pour découvrir qui est Emmanuel Kamdem. Emmanuel Kamdem est titulaire de l'habilitation à diriger des recherches, HDR. Il est également sociologue et enseignant à l'université de Douala. Il est actuellement professeur des universités au département de gestion des ressources humaines et enseignant à l'école supérieure des sciences économiques et commerciales, l'ESSEC, de l'université de Douala. Alors, disons à son actif également qu'il dirige l'équipe de recherche du Centre d'études et de recherche africaine en management et en entrepreneuriat, le CERAME. Il est entre autres coordonnateur du groupe national de travail GNT du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, Codesria, voilà, j'y suis arrivé, Codesria. Il est directeur de l'ESSEC de Douala, nous l'avons dit dès l'entame de cette émission, depuis 1999. Professeur invité à conférencier dans plusieurs institutions universitaires africaines, francophones et de tout l'espace francophile. Il est également invité à conférencier dans des universités canadiennes. Il a publié plusieurs ouvrages. Entre autres, nous avons pu recenser le management interculturel en Afrique, expérience camerounaise. Il a publié également au niveau de ses ouvrages spécifiques, voilà, gérer les ressources humaines en Afrique, entre processus sociaux et pratiques organisationnelles. Bien d'autres ouvrages en publication et en copublication. Nous le disions, le professeur Emmanuel Kamdem, directeur de l'ESSEC depuis 1989. Alors, professeur, on se demande bien, parce que le titre de professeur est devenu pratiquement un prénom pour vous. Professeur, c'est depuis combien d'années ?
Exactement, je suis devenu maître de conférence des universités en 1998 et professeur titulaire des universités en 2003.
Professeur titulaire en 2003, donc vous aspirez déjà à avoir bouclé l'échelle.
Je suis professeur des universités hors échelle depuis précisément 2010.
Voilà, je le disais tout à l'heure, nous recevons une sommité de l'intelligentsia, n'est-ce pas ? Professeur Emmanuel Kamdem, peut-être rentrons un peu par là. Vous avez un CV assez élogieux, mais il revient régulièrement lorsqu'on évoque votre personne et votre personnalité, que vous êtes un peu effacé, un peu discret. À quoi peut-on devoir cela ?
Bon, effacé, discret, je ne le pense pas beaucoup. Je travaille avec une population jeune, une population, comme je le disais tantôt, qui a envie d'apprendre, qui a envie de savoir. Je suis à la disposition de cette population, de ces étudiants, et je travaille avec mes collaborateurs enseignants. Maintenant, sur le côté humain, je reconnais que je suis quelqu'un de humble. Je cultive beaucoup l'humilité et également la crainte de Dieu dans tout ce que je fais. C'est peut-être ces deux dernières raisons qui font dire que je suis quelqu'un de discret.
Et c'est ces deux raisons et qualités qui fondent peut-être votre durée à la tête de l'ESSEC.
Je n'en sais rien. C'est pas moi qui décide de la durée à la tête de l'ESSEC.
Voilà, professeur. Ben, revenons un peu sur... vous savez, beaucoup d'auditeurs créent l'amalgame dans les titres et grades universitaires. Vous avez évoqué tout à l'heure, professeur Emmanuel Kamdem, votre accession au magistère, maître de conférence, puis professeur par la suite. Quelle est la différence, par exemple, entre un maître de conférence et un professeur, puisqu'on vous appelle tous professeur?
Mais la différence, de façon générale, c'est que dans le système universitaire camerounais, il y a quatre grades universitaires. Le grade d'assistant, par lequel on commence. Ensuite, le grade de chargé de cours. Et après, le grade de maître de conférence. Et pour terminer, le grade de professeur. Généralement, le titre de professeur est accordé aux enseignants qui appartiennent aux deux grades supérieurs, celui de maître de conférence des universités et celui de professeur des universités.
Et il y a également l'amalgame qui naît de l'adjonction dans le système francophone, si je puis me permettre, des concours d'agrégation qui créent encore tout un autre cafouillage au niveau des avancements des enseignants.
Oui, tout à fait. Le système d'agrégation des universités est un système propre au système français d'enseignement supérieur. Et c'est un concours national qui est organisé pour l'accession au grade de professeur. Donc c'est un système qui est propre aux institutions universitaires françaises ou d'inspiration française. Ce système d'agrégation, par exemple, n'existe pas dans le système anglo-saxon, ce qui fait qu'on peut, si on évolue dans le contexte de l'université américaine, britannique ou autre, on peut devenir professeur sans nécessairement avoir été agrégé. Et dans le système camerounais, cela est également possible.
Et vous êtes, disons, en sciences sociales, vous êtes diplômé en sciences sociales. Vous n'avez pas eu recours à cette agrégation pour vous retrouver au sommet aujourd'hui ?
Non, pas du tout, parce que dans le domaine de discipline où j'évolue, c'est-à-dire les sciences sociales, et plus précisément la sociologie de l'organisation, le système, aussi bien en France d'ailleurs, dans les pays francophones qu'au Cameroun, est organisé de telle manière que l'accession au grade de professeur ne nécessite pas de passer par le concours d'agrégation. L'exigence est celle de faire un doctorat, ensuite de faire une habilitation à diriger des recherches. Et il me semble même ces dernières années que l'exigence de l'habilitation à diriger de recherche n'est plus de rigueur dans un certain nombre de pays. Mais je dois souligner que le plus important dans tout ça, c'est pas le titre, c'est pas le grade, mais c'est la qualité de la personne, et notamment cette qualité s'apprécie à travers les publications qui sont faites. Il ne suffit pas d'être professeur ou d'être maître de conf, mais encore faudrait-il que
les publications
scientifiques en témoignent, surtout les publications qui font avancer la science.
Mais justement, professeur, vous n'avez pas parfois un complexe de supériorité par rapport à vos collègues qui ont utilisé le raccourci entre guillemets de l'agrégation, quand on sait que la voie méritoire, mine de rien, c'est quand même celle des publications scientifiques?
Non, aucun complexe. Vous l'avez dit au début, je suis assez discret, assez humble, donc quelqu'un de discret, de humble, aurait tort d'avoir un complexe de supériorité vis-à-vis de ses collègues. J'ai un très profond respect pour un collègue, quel qu'il soit.
Professeur Kamdem ne les regarde pas d'en haut en disant...
Non, pas du tout. On est des collègues, quels que soient les grades auxquels on appartient, quelles que soient les disciplines dans lesquelles on opère. Je crois que c'est la moindre des choses, apprendre à se connaître, apprendre à se respecter et apprendre à s'accepter tel qu'on est et qui que l'on soit.
Alors, professeur Kamdem, vous aimeriez en quelques mots qu'on vous présente comme un sociologue, manager, leader, enseignant?
Mais c'est un peu tout cela. Sociologue, oui, j'ai fait des études. D'abord, mes études ont commencé en psychologie. Ma première thèse universitaire, je l'ai faite en psychologie du travail, en étudiant les conditions de travail des travailleurs africains opérant dans les usines de la région parisienne. Ensuite, je me suis orienté vers la sociologie lorsque j'ai préparé mon HDR avec un regard approfondi sur les perspectives anthropologiques pour mieux comprendre les réalités des sociétés africaines. Maintenant, sur le plan de la pratique professionnelle, j'évolue dans l'environnement managérial. Jusqu'à présent, je n'ai enseigné au niveau du Cameroun comme enseignant permanent à l'ESSEC de l'université de Douala. Donc je suis un peu à la croisée des chemins entre la psychologie, la sociologie, l'anthropologie et le management.
Vous êtes un fruit de l'interculturalité dont vous parlez.
Exactement, le produit de l'interculturalité de l'interculturalité.
Et l'interdisciplinarité.
Oui, tout à fait, oui.
Et cela vous conforte dans votre position d'académicien, à la limite?
Académicien, le mot ne me plaît pas beaucoup. Je préfère praticien. Je préfère, praticien, homme d'action. Parce que derrière le terme scientifique, oui, derrière le terme académicien, on pourrait peut-être croire qu'il y a quelqu'un qui se contente des choses académiques, c'est-à-dire pour certains des choses théoriques. Ce n'est pas dans ma nature. J'aime l'action, j'aime les résultats, j'aime l'engagement. Bref, c'est tout cela qui contribue à la performance individuelle, organisationnelle et sociétale.
Mais professeur, c'est quand même curieux que vous soyez un enseignant d'université, mais que vous vous limitiez à enseigner surtout au Cameroun, dans une grande école. Ne pensez-vous pas que les étudiants du gymnase ne seraient pas heureux d'avoir en face de le professeur Emmanuel Kamdem?
Bon, j'ai eu l'occasion d'enseigner en dehors de l'ESSEC, grande école. J'ai enseigné à la faculté de sciences économie et de gestion en 93.
Maintenant, vous laissez cela pour des petits, quoi?
Non, pas du tout. Je vous ai dit que je respecte tous les collègues, quels qu'ils soient. J'ai enseigné à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Tchang et je continue d'enseigner à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Ngaoundéré. J'ai enseigné également à l'université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Donc vous voyez, je n'enseigne pas que dans des grandes écoles, j'enseigne aussi dans des facultés.
Bon, vous avez cité plus de grandes écoles que de facultés, hein, professeur.
Oui, plus de grandes écoles que de facultés parce que...
C'est bien payé ?
Non, ce n'est pas un problème d'argent, d'autant plus que quand je dis j'ai enseigné ici, j'ai enseigné là, ce n'est pas toujours parce que je repars avec une enveloppe. Les responsables de certains de ces établissements peuvent en témoigner que j'ai parfois enseigné bénévolement. Non, c'est que j'ai une perspective qui est un peu business focus, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire un peu orientée vers le monde de l'entreprise, vers le monde de l'action, vers le monde de la création de la richesse, de la création de la valeur. Et donc ma vision, c'est d'essayer de faire un pont, de construire un pont entre ce qui est fait à l'université, en termes de formation, en termes de recherche, et ce qui se fait dans le monde de la création de la richesse, c'est-à-dire dans le monde des entreprises. Et sur le plan universitaire, les institutions qui répondent le mieux à cette exigence sont des business schools, c'est-à-dire des grandes écoles de management.
Les écoles de commerce à la limite.
Les écoles de commerce, oui.
Et professeur, à votre actif, si... nous ne pouvions le permettre. Vous avez une habilitation à diriger des recherches. Le professeur Kamdem a déjà produit combien de docteurs pour l'université camerounaise ?
Pour l'université camerounaise, le dernier que j'ai produit, pour reprendre vos termes, c'est là, il y a deux semaines, je crois, le 20 octobre, j'ai fait soutenir... J'ai fait passer la dernière soutenance d'un de mes doctorants qui a travaillé sur la question de la responsabilité sociétale des entreprises.
Une interdisciplinarité entre le droit, la sociologie et le management.
Non, plus entre la sociologie et le management. Entre la sociologie, l'anthropologie et le management. Bon, l'année dernière, j'ai fait passer une thèse de doctorat sur la construction de l'entrepreneuriat culturel au Cameroun. Bon, avant cela, il y a, je crois, deux ou trois autres thèses en perspective pour les soutenances sur le plan international, à l'étranger, là également, avec des collègues de ces pays, notamment de la France, du Canada. J'ai également dirigé des travaux de thèse.
Et vous vous estimez heureux à chaque fois? Ou alors, parce que, professeur, on a souvent une image des jurys. Est-ce que c'est parce qu'on sait que c'est le professeur Kamdem qui a encadré qu'on va, de but en blanc, donner une mention très honorable aux postulants, ou alors...
Non, pas du tout.
Le travail scientifique qui est...
Non, pas du tout. Sinon, toutes ces thèses que j'ai dirigées auraient toutes des mentions très honorables, ce qui n'est pas le cas. Il y en a qui ont eu des mentions très honorables, aussi bien ici au Cameroun qu'à l'étranger. Il y en a qui ont eu des mentions honorables. C'est bien la preuve que ce n'est pas parce que je dirige une thèse que forcément les membres du jury doivent... doivent donner la plus forte mention pour me faire plaisir. Je pense que ce qui est important, c'est le travail qui est présenté. Et il faut savoir qu'en la matière, que diriger une thèse ne signifie pas qu'on est propriétaire de la thèse. On est un peu le coach. On montre au doctorant la voie à suivre. Et le travail produit est sous l'entière responsabilité du doctorant. Donc, ce n'est pas parce qu'on dirige une thèse que forcément, on devrait... militer pour qu'elle obtienne une mention très honorable. On peut très bien, tout en ayant dirigé une thèse, se rendre compte que cette thèse a des limites, qu'elle a des faiblesses, et que pour des raisons plus ou moins compréhensibles, le candidat ne peut plus aller au-delà de ce qu'il a fait. Et à ce moment, forcément, ce ne sera pas une mention très honorable, ce sera une mention qui correspond davantage au contenu, à la qualité du travail présenté.
Mais une fois docteur, lorsqu'ils deviennent vos collègues, est-ce que le professeur Kandem n'a pas envie de leur dire, entre guillemets, ben, portez mon sac, je vous ai enseigné.
Non, ce n'est pas dans mes habitudes. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Je ne suis pas, comment dire, dans la tradition.
Un bizutard.
Non. J'ai des relations faciles avec tout le monde, avec mes étudiants, avec mes doctorants, dans la mesure où cela se fait dans un cadre de respect mutuel. Et non, pas du tout porter le sac, non. Ce n'est pas dans mes habitudes.
99-2015, professeur Kandem à la tête de l'École supérieure des sciences d'entrepreneuriat et de commerce de l'Université.
Des sciences
économiques et commerciales de l'Université de Douala. Voilà, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, c'est bien cela, de l'Université de Douala. Ça fait quand même beaucoup d'années, hein, professeur.
Exactement.
Vous avez acheté un titre foncier?
Non,
pour
c'est pas titre foncier, c'est depuis le 27 janvier 1999, donc ça fait aujourd'hui 16 ans que je dirige cette école. J'ai pas de titre foncier sur l'école.
Le président de la République vous y aurait oublié.
Je considère plutôt que c'est une marque de confiance que m'accorde le président de la République.
Et vous vous dites aussi que vous travaillez bien, peut-être c'est pour cela que...
Je ne me dis pas que je travaille bien, je pense qu'il revient à mes supérieurs hiérarchiques aux différents niveaux d'apprécier le travail que je fais. Il revient aux étudiants que j'enseigne, que nous enseignons, d'apprécier le travail que je fais. Il revient à mes collaborateurs avec qui je travaille, d'apprécier ce qui se fait.
Voilà, professeur, nous allons marquer une respiration en musique et nous reviendrons juste après pour le plein dans le plat de résistance de notre cuisine.
For a long time, he was a good man. 105 FM.
Vous êtes sur Cuisinez-moi, l'émission, c'est sur la Souelaba FM 105 tous les dimanches de 10h à midi. Notre invité dans la cuisine ce dimanche, c'est le professeur Emmanuel Kamdem. Mais professeur, je vous ai vu dodeliner de la tête en écoutant du Lucky Dub. Ça vous a fait plaisir?
Ben, ça m'a fait énormément plaisir pour deux raisons principalement. Lucky Dub, c'est un musicien que j'aimais beaucoup et vu les circonstances dans lesquelles il est mort, assassiné à Johannesburg. C'est la première raison. Ensuite, la seconde raison, c'est quand même Bob Marley, est un musicien que j'aimais beaucoup. Et le plus grand souvenir que je garde de Bob Marley, c'est d'avoir assisté, jeune étudiant à Paris, au dernier concert qu'il a donné. Et quelques mois après, il est décédé.
Mais ça veut dire que dans votre jeunesse, on aurait pu voir le professeur Emmanuel Kamdem avec des dreadlocks aussi?
Oui, oui, dans une certaines mesures. Quand j'étais jeune étudiant à l'université de Montpellier, je m'exerçais au métier de disque jockey dans les soirées dansantes africaines, antillaises, black, comme on disait à l'époque. Et donc, je m'amusais à faire passer la musique. Je me souviens pas exactement avoir introduit le fameux Fela Lamson Kuti, Sweet Mother et autres, qui étaient inconnus dans les milieux étudiants à l'époque. Et ça fait, comme vous dites dans votre langage journalistique, un tabac. C'est de la communauté universitaire.
Un véritable tabac. Oui. Et maintenant, je crois quand même que, n'étant plus étudiant, étant scientifique, vous regardez peut-être scientifiquement cette musique aujourd'hui. Le sociologue qui en vous l'écoute, l'anthropologue l'analyse et puis peut-être l'enseignant la dissèque.
Oui, je l'analyse beaucoup plus dans le cadre de l'intérêt porté aux industries culturelles, c'est-à-dire à la contribution des œuvres de la culture, des productions culturelles à la création de la richesse. Mmh. C'est un point extrêmement important, surtout dans le contexte de notre pays, le Cameroun, qui est un pays très riche sur le plan culturel, très diversifié, mais qui ne connaît pas encore suffisamment d'évolution en termes de transformation de cette richesse. Simplement pour dire que l'apport de ces industries dites culturelles à la constitution, par exemple, du PIB est très 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 faible et il est important que ce secteur soit encore davantage investi par les investisseurs, par les entrepreneurs pour faire de la culture, j'ai envie de dire des cultures africaines, un véritable gisement de production de richesses, de création d'emplois et de croissance économique.
Et justement, quand vous y regardez, quelle est, je peux dire, la conclusion qui en ressort quand vous regardez à ces musiques, vous regardez à ces gisements culturels qui gîtent encore sans faute d'exploitation ou de mise en valeur?
Je me dis qu'il y a là un très fort potentiel pour les entrepreneurs. Parce que quand on regarde bien aujourd'hui les orientations des uns et des autres en matière de création d'entreprise, en matière d'entrepreneuriat, on sent bien que ce secteur de la culture est très négligé. Et pourtant, c'est un des secteurs dans lesquels il y aurait lieu vers lequel il y aurait lieu de se tourner pour développer encore davantage les activités. Et comparativement à ce qu'on voit ailleurs dans le monde, prenons des exemples très simples. Un musicien, un artiste, un peintre, un dessinateur dans d'autres contextes, notamment en Amérique, en Europe, il vit de son métier, ce qui n'est pas le cas dans notre pays, au Cameroun et même de façon générale en Afrique. Donc ce qui est souhaitable, c'est qu'ils puissent savoir qu'on travaille ensemble afin que ce secteur d'activité dont le potentiel est encore est très fort mais insuffisamment développé, que ce secteur connaisse l'évolution qu'il devrait connaître en termes de création d'emplois et en termes de création de richesses.
Là maintenant, c'est le manager qui parle ?
Oui, dans une certaine mesure, oui.
Ok. Professeur, parlons, sortons un tout petit peu de ce cadre, parlons de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales que vous dirigez quand même depuis 1999. Et je parlais d'un oubli du chef de l'État, mais vous m'avez dissuadé dans ce sens. Alors, professeur, aujourd'hui, le professeur Kamdem, comment il présenterait cette école, lui qui a passé 16 ans?
Je la présenterai brièvement en disant que c'est l'école pionnière de formation en management au Cameroun, dans la sous-région Afrique centrale. C'est l'école qui a son actif à peu près 36 années d'activité, à peu près 5 500 diplômés en management qui aujourd'hui évoluent dans plusieurs contextes, aussi bien camerounais, africains, internationaux. C'est l'école qui travaille beaucoup pour assurer une visibilité internationale au niveau des programmes, au niveau des recherches, des équipes de recherche. Et c'est surtout l'école qui a un souci très fort de concilier le travail universitaire, c'est-à-dire ce qui se fait au niveau de l'université et les besoins de l'entreprise, dans le sens d'une meilleure professionnalisation de la formation en vue d'assurer une insertion professionnelle rapide et réussie de ces diplômés universitaires. Et cela se traduit par plusieurs formes de partenariat institutionnel entre l'école et des entreprises. Donc voilà grosso modo ce que je peux en dire.
Et c'est une manière de dire, professeur, que votre école, vous voulez nous dire que votre école, c'est la référence en matière de sciences économiques et commerciales?
Non, la référence, c'est pas moi qui le dis. Je crois qu'il faut interroger ceux qui, chaque année, s'adressent à nous pour pouvoir s'inscrire au concours ou pouvoir s'inscrire dans les sélections. Je pense, sans fausse modestie, que oui, beaucoup de personnes sur le plan local, sur le plan international, reconnaissent que l'ESSEC a une audience, l'ESSEC de Douala a une crédibilité, a une visibilité. Et c'est un challenge pour nous de pouvoir garantir encore pour longtemps cette visibilité, cette crédibilité.
Mais professeur, pendant longtemps, des jeunes Camerounais se sont sentis frustrés de ne pas pouvoir accéder à cette école. Soi-disant, je vous dis ce qu'il ressortait de l'expression de leur frustration. Soi-disant, il fallait monnayer lourd pour accéder à l'ESSEC. Soi-disant, il fallait répondre aux exigences de l'équilibre régional qui présidait aux délibérations d'après concours, soi-disant encore, l'ESSEC, c'est pour les enfants de 3 points de suspension.
Bon, sur la question du monnayage, c'est vous qui le dites. Si vous en avez une preuve, présentez-la moi. Non, il n'y a pas de monnayage.
Je rapporte au professeur ce que...
Bon, vous savez,
c'est frustré.
On est dans un contexte au Cameroun où malheureusement, on pense que tout se fait par l'argent, avec de l'argent. Mais en ce qui me concerne, je peux vous assurer que, en tout cas au niveau de la direction que je représente, il n'y a pas de système de monnayage pour entrer à l'école. Maintenant que des personnes dans les quartiers prétendent faire telle démarche ou autre, cela ne m'engage pas personnellement. Dès lors que, au niveau institutionnel de l'établissement de l'université, il n'en est pas question. Maintenant, sur la question que vous avez posée sur l'équilibre régional et que, avec votre permission, je reformulerai beaucoup plus en termes de management de la diversité et non d'équilibre régional, parce que c'est quand même une expression très problématique. Je préfère parler du management de la diversité. Très bien. Bon, disons que
c'est le sociologue qui a parlé.
Du sociologue et du manager qui a parlé. Il s'agit là d'une exigence des temps modernes dans le monde entier aujourd'hui et dans tous les pays, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France et en Afrique du Sud et autres, ce souci de tenir compte de la diversité dans la société et de faire en sorte que cette diversité soit plus ou moins représentée au niveau des institutions, qu'il s'agisse des institutions de formation universitaire, qu'il s'agisse même des institutions professionnelles, c'est-à-dire les entreprises, les administrations et autres. Donc c'est un souci qui vise, par exemple, qu'est-ce que vous faites dans une société quand vous avez des minorités ? Alors, les minorités, ça se décline en plusieurs termes. Ça peut être des minorités suivant le critère du handicap physique. Ça peut être des minorités suivant le critère du genre. Ça peut être des minorités suivant le critère des milieux d'origine. Et pour une question de justice sociale, et donc pas d'équilibre régional de mon point de vue, mais de justice sociale, voilà, il est important que la responsabilité d'un pays ou d'une organisation, d'une entreprise, d'une université, soit de voir dans quelle mesure des personnes qui seraient discriminées ou des personnes qui seraient marginalisées pour telle ou telle autre raison, que des chances puissent être données à ces personnes d'avoir un avenir. Donc c'est pour moi beaucoup plus une question de justice sociale que d'équilibre.
Merci, professeur, pour ces éclaircissements. Mais maintenant, est-ce donc pour dire que tous les Camerounais, tous les jeunes Camerounais, parce qu'ils sont nombreux qui ont obtenu leur baccalauréat session juin, j'allais dire 2015, tous peuvent pouvoir solliciter et accéder à une formation à l'ESSEC?
Mais tous peuvent candidater. Les candidatures sont libres. Maintenant, au final, ce n'est pas tous les candidats qui se sont présentés qui sont reçus, puisque le nombre de places est arrêté d'avance. Et dans la sélection des candidatures, bien évidemment, il y a la prise en compte de l'élément que je viens de décrire, c'est-à-dire le souci de la diversité, le souci de la justice sociale, mais il y a aussi et surtout un critère qui est quand même celui du mérite, parce que on ne saurait simplement, au nom de la justice sociale, au nom du management de la diversité, faire une répartition, voilà, ce serait un peu nivelé par le bas. Or, c'est pas ce qui est fait. Donc, ce qui est fait, c'est quand même de regarder quel est le niveau de performance général des uns et des autres, et puis donc regarder quelles peuvent être les catégories sociales ou les groupes sociaux qui, pour souci de justice sociale, comme je viens de le dire, pourraient bénéficier d'un certain nombre d'attentions.
Mais pour ça, depuis 1999, à la tête de l'ESSEC, pensez-vous que l'ESSEC est avancé? Parce que l'ESSEC, par exemple, on ne vous voit pas assez, l'ESSEC ne communique pas. Est-ce que c'est la personne, professeur Emmanuel Kamdem, qui a déteint sur l'institution?
Non, je, quand vous dites que l'ESSEC ne communique pas, c'est relatif. Chaque fois que nous avons un événement, vous le savez bien, au niveau de la CRTV, nous vous sollicitons, nous vous écrivons.
À quelques exceptions près.
Pour vous informer de la tenue de l'événement et pour solliciter la couverture médiatique de cet événement. Disons que nous ne faisons pas du tapage médiatique. Nous pensons qu'au niveau de l'ESSEC, les résultats représentent le meilleur support médiatique. Lorsque nous avons, par exemple, pour un concours pour lequel nous avons 150 places, lorsque nous nous retrouvons avec un millier de candidats, est-ce qu'il fallait faire plus de publicité autour pour avoir 2000, 3000 candidats? Je ne pense pas. Le premier volet de votre question, c'est en quelque sorte les apports, les avancées. Je crois qu'au cours de ces dernières années, L'ESSEC a connu pas mal d'avancées, j'en citerai rapidement quelques-unes. Nous sommes aujourd'hui une école éligible au programme d'accréditation internationale, l'European Foundation for Management Development, qui est un organisme international européen basé à Bruxelles et qui accorde des accréditations aux business schools du monde entier. Et nous sommes une des rares écoles africaines à avoir bénéficié de cette éligibilité. Bien entendu, il ne s'agit que d'une éligibilité.
N'est pas encore l'élection.
Ce n'est pas encore l'élection. Donc c'est pour dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire et nous sommes concentrés sur ces efforts, espérant d'ici quelques années pouvoir accéder à l'élection. Sur le plan scientifique, nous avons une revue qui est la revue camerounaise de management, qui est aujourd'hui classée en France comme revue émergente par la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, qui est le plus important réseau en France qui regroupe les grandes écoles ou les facultés qui offrent des programmes de formation en gestion. Et cette revue, ce classement, nous sommes là pratiquement à ce moment la seule revue francophone d'Afrique, qu'il s'agisse d'Afrique Maghreb ou d'Afrique au sud du Sahara, qui bénéficie de cette reconnaissance. Je peux vous citer comme ça plusieurs activités dans le sens de la reconnaissance nationale. Bien évidemment, à chaque fois que nous avons une distinction, je m'adresse aux médias, j'écris aux médias pour les informer de ce qui vient de se passer. Bon, maintenant, si les médias auxquels je m'adresse n'en parlent pas, je ne vais pas faire une pression sur eux pour dire ben, « parlez de nous ». Je pense qu'il faut respecter ce que les uns et les autres veulent faire.
Peut-être que la saisine opérée par le professeur est éthiquement scientifique et ne permet pas à ces médias d'avoir du grain à moudre.
Non, c'est pas tellement scientifique. Le fait, par exemple, de saisir un média quelconque en disant « voilà, l'établissement
présente tel prix,
telle accréditation. » Bon, je pense pas que ce soit scientifique. C'est une information
qui mérite d'être exploitée.
Voilà, qui mérite d'être diffusée, qui mérite d'être exploitée. Oui.
Alors, professeur, l'éligibilité à ces accréditations, vous avez également la revue, cette revue scientifique.
Revue camerounaise de management, oui.
Ça veut dire qu'elle porte, elle peut quand même porter des publications scientifiques de vos jeunes collègues. Et...
Oui, pas seulement de nos jeunes collègues, mais même des collègues d'autres pays. Par exemple, à titre d'exemple, actuellement, depuis que notre revue est classée revue émergente en France, nous recevons plus d'articles de la communauté scientifique internationale que de la communauté scientifique camerounaise. Des articles qui viennent de partout, du Maroc, de Tunisie, du Canada, de la France, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire.
Le professeur serait-il en train de dire que ses collègues sont un peu paresseux?
Non, ils ne sont pas paresseux. Quand je dis nous recevons davantage, c'est pas exclusivement. Nous recevons aussi des articles des collègues camerounais, des collègues de l'ESSEC, de Douala, du Cameroun. Et évidemment, il y a un comité scientifique qui doit évaluer la qualité, le contenu, une évaluation en double aveugle, comme on dit dans le jargon des publications scientifiques, c'est-à-dire celui qui, le membre du comité scientifique ou tout autre évaluateur qui évalue un article, ne connaît pas l'auteur de l'article de son côté ne connaît pas
l'examinateur.
Voilà. Et lorsque les évaluations sont positives, nous publions l'article. S'il nécessite des corrections, on le demande aux auteurs. Si l'article est vraiment pas bon pour être publié, on le retourne à l'auteur en le remerciant d'avoir fait confiance en nous, en l'encourageant de revoir son article pour le faire publier dans une autre revue.
Voilà. Alors maintenant, parlant de l'école en elle-même, collège des enseignants efficaces ou alors les étudiants sont un peu trop faibles?
Non, je dirais pas qu'ils sont trop faibles. Bon, comme dans tout groupe, il y a une hiérarchisation des performances. Vous en avez qui sont au top, qui sont très très bons, vous en avez qui sont, disons, moins bons, vous en avez qui sont moyens. C'est la règle générale. Hein. Dans un classement, vous ne verrez pas un classement dans lequel vous n'avez que les meilleurs parmi les meilleurs. Et donc, le souci est de faire en sorte que même ceux qui ne sont pas au sommet du classement puissent s'améliorer. Et pas seulement s'améliorer pendant qu'ils sont en formation, mais qu'ils puissent aussi s'améliorer à la fin de la formation. Parce qu'il faut bien le dire, c'est pas parce qu'un étudiant termine sa formation, par exemple, avec un niveau passable ou une mention passable, qu'il sera forcément peu performant dans la pratique managériale ou dans la pratique entrepreneuriale. Parce qu'il rentre dans un autre contexte, qui est celui de la création, qui est celui de la mise en œuvre des connaissances acquises. Et sur ce plan, même un étudiant moins bon à la sortie peut s'avérer plus efficace sur le terrain plan de la professionnalisation sur le terrain.
Mais justement, professeur, vous n'êtes pas sans ignorer que il y a quand même un problème qui se pose aujourd'hui sur, au niveau professionnel. Les entreprises tirent la sonnette d'alarme depuis quelques années sur les performances, pour reprendre votre expression, des produits qui leur sont proposés par les institutions de formation camerounaises.
Oui, vous avez tout à fait raison, et la question est au cœur des préoccupations des dirigeants de l'université de Douala, et cela a d'ailleurs fait l'objet d'un forum université-entreprise organisé les 30 et 31 octobre 2013 pour voir comment renforcer le partenariat entre les deux institutions et donc faire en sorte que les programmes de formation universitaire soient reprofilés pour correspondre davantage aux besoins des entreprises. Donc sur le constat que vous faites, je suis d'avis avec vous que forcément nos programmes ne sont pas toujours au top des exigences des entreprises, parce qu'il faut bien reconnaître une chose, c'est qu'aujourd'hui l'évolution des techniques de production, l'évolution des méthodes de management, l'évolution de l'environnement économique, de l'environnement des affaires, elle est très rapide. D'une année à l'autre, ce qui se faisait, ça change, les méthodes de travail ou autres, avec aujourd'hui la numérisation, l'internet, etc. Donc c'est une exigence extrêmement importante pour les institutions universitaires de pouvoir faire en sorte que leur programme puisse connaître une évolution rapide, donc une adaptation en temps réel, sinon on va se retrouver dans une situation de déphasage.
Et justement, vous devez être sur ce chantier depuis, parce que la numérisation, quand même la dynamique de la numérisation et de tout le reste, on en parle depuis près d'une décennie, professeur.
Oui, on en parle, par exemple.
L'ESSEC n'est pas un peu en déphasage ou en retard?
Bon, on fait des efforts, notamment en mettant sur Internet un certain nombre, pas toutes les informations bien sûr, mais quelques informations pertinentes pour que les étudiants, les enseignants et toute personne qui s'intéresse à la vie de l'école puisse obtenir cette information sans nécessairement passer à l'école. Bon, il y a l'exigence par exemple du renforcement des cours, de la méthodologie d'enseignement, des PowerPoint, des choses comme ça, réduire autant que possible les cours magistraux, rendre les enseignements beaucoup plus pratiques, beaucoup plus interactifs, et cela nécessite de plus en plus l'intervention des professionnels d'entreprise, cadres, dirigeants d'entreprise. C'est pour ça que nous avons le souci chaque année de faire en sorte que le nombre de professionnels venant des entreprises et intervenant comme enseignants soit en hausse dans les différents enseignements et dans les différents départements. C'est un souci majeur. Il y va de la survie de l'établissement, parce que c'est aujourd'hui l'exigence mondiale des business schools en général et des universités, des business schools en particulier et des universités en général, de faire en sorte que la formation qui est donnée au niveau de l'université réponde en temps réel aux besoins des employeurs qui sont, en fait, ce sont ces entreprises qui emploient.
Les vrais propriétaires. De ces diplômes.
Donc, si elles ne sont pas satisfaites de la qualité de la formation, vous voyez bien la conséquence au niveau du chômage des diplômés universitaires.
Et alors, serait-ce une manière de dire, professeur, aujourd'hui, avec le professeur Emmanuel Kamdem, l'ESSEC est debout ou l'ESSEC patauge encore dans les flots ou est vaincu par les flots?
Non, l'ESSEC ne patauge pas. Si l'ESSEC pataugeait, on n'aurait pas, comme je disais tantôt, autant de sollicitations à la fois nationales et internationales.
Peut-être que les sollicitations peuvent être dans le sens où on se dit tant qu'à faire.
Non, pas du tout. Il ne faut pas oublier que l'environnement universitaire dans notre pays a beaucoup changé avec la création d'établissements privés, les IPES, avec la délocalisation de plus en plus forte dans notre pays des écoles étrangères et des programmes de formation étrangères. Donc que l'ESSEC puisse maintenir sa position dans un contexte où la concurrence est de plus en plus vive, concurrence nationale, concurrence internationale, je pense qu'on est au-delà de patauger. Non seulement on se maintient, mais je pense qu'on est on est sur une voie de performance qui n'est pas absolue, qui est relative, parce que la performance se décline en plusieurs termes, en plusieurs notions, et je pense qu'à chaque niveau il faudrait voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles, avoir une vision stratégique de la question, regarder voilà dans quel secteur nous sommes performants, on va renforcer notre positionnement stratégique dans ce secteur, maintenant voir dans quel secteur ou sur quel domaine nous sommes moins performants et travailler davantage pour améliorer notre performance.
Et alors, professeur, mais quand vous dites que la concurrence et tout le reste, l'ESSEC reste leader malgré la concurrence, ce n'est pas à l'image de Borgne-Roi dans le pays des aveugles?
Non, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Vous pouvez faire une enquête à votre niveau, rencontrer les parents, les familles, et même rencontrer la plupart de nos concurrents, que je ne considère pas comme des concurrents en tant que tels. Nous sommes dans un champ où les besoins sont énormes et chacun peut apporter sa modeste contribution. Nous sommes complémentaires. De mon point de vue, il n'y a pas de concurrence entre...
entre formateurs.
Non, pas du tout. On se complète. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on observe? Que, par exemple, des étudiants qui ont fait leur premier cycle de formation à l'Université catholique de Yaoundé, à l'Institut catholique Saint-Jérôme de Douala ou dans plusieurs établissements IPES, se présentent au concours du cycle master à l'ESSEC en cours du jour et pareil en cours du soir. Donc je verrais beaucoup plus j'aurais plus une image de complémentarité qu'une image de concurrence. Et donc si beaucoup d'étudiants formés dans ce que certains appelleraient nos concurrents estiment qu'il est important pour eux de faire par exemple leur second cycle ou leur cycle doctoral à l'ESSEC, et c'est bien la preuve que l'ESSEC représente quelque chose.
Vous l'avez dit. Samuel Maud, nous allons respirer en musique avant que de passer à la prochaine étape.
Boy, he said to me, anymore. All they build will be prison, prison. They won't build no schools anymore. All they build will be prison, prison. They won't build no schools anymore. All they build will be prison, prison. Cause today,
balade, hein, professeur.
Merci.
Vous avez encore replongé dans votre univers de disc jockey.
Oui, oui, ça fait quand même longtemps, ça date de longtemps. Ça.
Mais vous avez, j'ai l'impression que vous avez particulièrement aimé ce titre par rapport au précédent.
Non, bon, par rapport, oui, peut-être parce qu'il est plus en rythme, il est plus rythmé, plus dansant, plus entraînant, oui, oui.
Mais il y a une image, hein, professeur, qui est collée à ceux qui aiment ce rythme et à ceux qui sont dans l'univers dans lequel vous avez évolué lorsque vous avez été au contact de ces musiques-là. C'est vrai, ce sont les dreadlocks, mais aussi la consommation des drogues et d'autres.
Non,
ça vous a parfois aidé à mettre le feu.
À vrai dire, je n'ai pas été au contact des dreadlocks et autres. J'ai dit que j'ai... à mes heures perdues comme étudiant et pour
arrondir les fins de mois.
Pour arrondir les fins de mois, consacrer mes soirées de vendredi, de samedi à être Mr. DJ dans les comment dire, soirées dansantes.
Dans les soirées dansantes.
Africaines, antillaises et autres. Bon, voilà. Mais... là, j'ai surtout côtoyé le milieu étudiant. Je n'ai pas côtoyé le milieu des
musiciens. Rastafaris.
Non, de Rastafari, non. Donc, les Rastafaris, je les ai connus plus en écoutant leur musique et en faisant danser un public avec leur musique.
Voilà, mais Prisoner, c'était le titre qui nous était proposé une fois de plus par le Kidoubé. Un destin triste, hein. Nous parlions en off, professeur, de ces assassins qui sont venus se rendre par eux-mêmes à la police, disant qu'ils ne s'étaient pas rendus compte de ce que c'était lui qu'ils allaient assassiner. Quand même tragique.
Oui, tragique, triste en même temps. Ils ont pris connaissance de leur crime. Simplement, la leçon qu'il faudrait tirer, c'est que tout crime est mauvais, quelle que soit la personne qui est victime de ce crime. Parce que si ces assassins, c'était un seul instant dit, nous ne devons pas tuer, nous ne pouvons pas tuer, et ils n'auraient pas tué ce grand musicien que l'Afrique du Sud et l'Afrique tout entière a perdu. Donc je pense que la leçon qu'il faudrait tirer, c'est qu'il n'y a pas de bon crime, il n'y a pas de mauvais crime.
Tout crime est crime.
Tout crime est crime, oui.
Reste une piste, Loki Dubé, 233-42-60-60. C'est le numéro à partir duquel vous pourrez appeler à cette émission, poser des questions au professeur Emmanuel Kamdem, qui est encore avec nous jusqu'à midi, ne l'oubliez pas. Alors, professeur, parlons maintenant de ce noble métier d'enseignant. Il vous est reproché par les cadets de couler les dalles sur leur tête.
Expression. Voilà, c'est une expression, mais est-ce que vous pourrez m'aider à décoder le sens de cette expression?
Ça veut dire quoi? Les cadets, lorsqu'ils accèdent au magistère, vous les vieux, entre guillemets, vous ne voulez pas qu'ils avancent. Donc, du coup, vous bafouez les publications, vous bafouez dans les délibérations.
Vous parlez là de façon générale ou de ce qui me concerne personnellement?
Mais pour ça, vous êtes un ancien.
Bon, un ancien.
C'est
bon.
Tiré sur les anciens.
Bon, alors, il y a beaucoup de choses dites et pas vraies. Il peut arriver, effectivement, que pour différentes raisons, indisponibilité d'un enseignant ou peut-être même des problèmes personnels, que cela impacte sur la carrière d'un enseignant. Mais je crois que la carrière d'un enseignant ne dépend pas d'un individu, fût-il maître ou supérieur hiérarchique. La carrière d'un enseignant dépend d'abord et avant tout de l'enseignant lui-même. Je veux dire quoi? Je veux dire que si vous remplissez les conditions administratives, les conditions scientifiques, les conditions comportementales, et que vous faites un dossier, quelle que soit l'animosité que tel ou tel supérieur, collègue peut avoir à votre endroit, cette animosité ne pourra pas être un obstacle vous empêchant d'évoluer. Le système est fait de telle manière qu'il y ait des voies de contournement. Lorsqu'un collègue, par exemple, s'il refuse d'évaluer le dossier de changement de grade d'un enseignant avec qui il croit avoir eu des problèmes, il est toujours possible que ce dossier lui soit retiré pour être évalué par quelqu'un d'autre. Non, je crois qu'il ne faut pas généraliser des cas exceptionnels. De façon générale, tout se passe normalement. Il y a peut-être de temps en temps des lenteurs dans l'appréciation des dossiers, mais de mon point de vue et par rapport à ce que je sais, ces lenteurs viendraient davantage des occupations des uns et des autres quand on est sur plusieurs fronts: enseignement, recherche, terrain d'entreprise, mobilité internationale. Il peut arriver que les délais dont on dispose pour effectuer un rapport scientifique sur un dossier soient courts et qu'on aille au-delà de ces délais. Mais ce n'est pas intentionnellement qu'on le fait.
Donc vous dites à vos jeunes collègues aujourd'hui que vous n'êtes pas ce maçon qui va couler une dalle sur leur carrière?
Non, pas du tout. Imaginez un CSA qu'il en soit ainsi. Comment se ferait la préparation de la relève? C'est un souci majeur pour toute personne.
Mais parce qu'effectivement, il est également reproché aux anciens de ne pas vouloir passer la main.
Non, c'est pas... écoutez, si ces reproches étaient véritablement fondés, ce serait scandaleux, dramatique. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que une génération qui est en activité aujourd'hui, quand cette génération sera de l'autre côté, par exemple à la retraite, qu'il n'y aurait plus de personnes derrière pour continuer le processus. Non, pas du tout. Il y a quand même ce souci de la relève, de la préparation de la relève. Et c'est pour cela que les seniors acceptent d'encadrer les juniors, de les encadrer dans leurs travaux de recherche, mémoire, thèse et autres, de les encadrer dans leurs publications scientifiques à travers des co-publications. Et je crois que ça se passe bien. Maintenant, comme je le dis, il peut arriver qu'il y ait des cas exceptionnels, mais ces cas exceptionnels ne devraient pas déteindre sur l'ensemble. Et quand il y a des cas exceptionnels, il suffirait simplement que la personne qui se sent, injustement traité, le fasse savoir à qui de droit les mesures seront prises pour qu'il ne soit plus victime de cette injustice.
Et pour ce qui est de la professionnalisation des enseignants, nous revenons un peu. Est-ce qu'il y a une politique, une programmation qui a été définie y afférent, compte tenu de ce que l'exigence, vous l'avez dit, la climatique est vraiment à la petitesse du temps. Lorsqu'on regarde, les choses vont tellement vite. Bon, les anciens veulent-ils que ça traîne toujours pour qu'ils aient, ils en tirent profit ou...
Je ne pense pas que ce soit vrai de dire que les anciens veulent que ça traîne. Je crois que les anciens, enfin, ce que vous appelez les anciens, appelons-les les seigneurs,
les aînés,
ont également le souci de laisser derrière eux une génération de qualité. Parce que nous, qui sommes aujourd'hui un peu considérés comme représentant le corps des seniors dans l'enseignement supérieur au Cameroun, que serions-nous devenus si nos aînés d'antan bloquaient tout le processus d'évolution ou de mobilité de notre carrière? Nous ne serions pas là où on est aujourd'hui. Par conséquent, il y a un système, d'échelle sociale, il y a un système de promotion sociale qui voudrait que ceux qui sont devant puissent tenir la main de ceux qui sont derrière. Maintenant, tout dépend des cadets, comme vous dites. Il n'est pas évident qu'un cadet accepte toujours de reconnaître l'autorité scientifique d'un senior. Maintenant, si tel est le cas, vous n'allez pas obliger un jeune qui ne reconnaît pas en vous la qualité de maître, la qualité d'aîné, la qualité de senior, vous n'allez pas lui obliger à le reconnaître. C'est des réalités qui existent aussi. Mais je pense qu'au vu de la reproduction aujourd'hui, de la relève telle qu'elle se fait, notamment au niveau du corps enseignant de l'enseignement supérieur à l'ESSEC, parce que je parle de ce que je connais mieux, l'ESSEC, je peux vous dire que véritablement, il n'y a pas une entrave venant de la part des aînés ou des seniors pour empêcher les cadets d'évoluer. Au contraire, c'est plutôt des pressions qui sont mises sur ces cadets pour leur rappeler à temps et à contre-temps la nécessité de pouvoir accélérer la procédure de préparation de soutenance de leur thèse, de pouvoir produire des articles pour pouvoir upgrade, comme disent les anglo-saxons. Et je crois que c'est parfois cette pression qui est faite sur eux qui crée...
Qui est diversement appréciée.
Voilà, qui est diversement appréciée. Voilà.
Et donc, aujourd'hui, le professeur Kamdem peut affirmer que la relève est assurée, ou alors il reste beaucoup à faire?
Je dirais qu'il reste beaucoup à faire. C'est un travail de longue haleine pour lequel il ne faut pas se reposer. Ce d'autant plus que on n'a aucune garantie que tout ce qu'on a formé et qui vient après continueront dans la voie de l'enseignement ou dans la recherche. Il y en a qui, à un moment donné, vont préférer exercer d'autres activités, créer d'entreprises, créer des cabinets, s'écarter du métier d'enseignant-chercheur. Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire.
Il reste encore beaucoup de travail à faire. 233 42 60 60, c'est le numéro. Vous pouvez nous appeler, participer à cette cuisine du dimanche sur la Suelaba FM 105. Je vous l'ai dit, notre invité de ce dimanche, c'est le professeur Emmanuel Kamdem, directeur de l'ESSEC de Douala. Alors, professeur, vous avez évoqué tout à l'heure, nous revenons sur vous, votre casquette de chrétien. J'ose croire que c'est une exception que vous avez faite aujourd'hui, d'être sur notre plateau et pas à l'église.
Une très grande exception, parce qu'effectivement j'avais rendez-vous aujourd'hui dans ma paroisse et j'ai préféré sacrifier ce rendez-vous pour répondre à votre invitation.
Mais il nous est revenu que le professeur Kamdem fait partie de ces chrétiens qui dérangent un peu leurs bergers, hein, parce qu'ils sont de très très longs crayons.
Non, et pourquoi?
Il trouve que le berger en face raconte parfois des, entre guillemets, passez-moi l'expression, des conneries.
Non, non, c'est pas vrai. J'ai le plus grand respect pour les membres du clergé, quel que soit leur titre, leur position, curé, évêque, archevêque et autres. J'ai un très très profond respect pour toutes ces personnes. Maintenant, le respect qui est de mise n'empêche pas qu'on puisse échanger, discuter et dire ce que l'on pense de certaines situations. D'ailleurs, ils nous le demandent. Ils nous le demandent. Qu'est-ce que vous pensez de telle situation? Comment, d'après vous, pourrait-on faire pour résoudre tel problème? Je pense que le Christ lui-même était très provocateur. Hein. Quand vous suivez les évangiles du Christ, vous vous dites, c'était un révolutionnaire. Donc, si aujourd'hui, être chrétien signifie être absolument conformiste, ne pas regarder ce qui se fait, ne pas suggérer des améliorations, ce ne serait pas à l'image de celui...
De Christ.
Voilà.
De celui dont nous nous revendiquons d'être des disciples. Voilà. Et justement, vous pensez que foi et raison, c'est un couple ou c'est deux entités séparées?
C'est un couple, c'est un couple. La foi, c'est reconnaître une vérité qui est celle de l'Église, qui est celle à laquelle on appartient, de respecter cette vérité. La raison, c'est aussi de reconnaître que les réalités humaines ne sont pas absolues, que les réalités humaines sont changeantes. Elles sont contingentes à chaque environnement et donc en fonction des périodes, des personnes, des moments, on peut être amené à discuter de certaines questions. D'ailleurs, c'est ce qui se fait aujourd'hui au Vatican. Je crois que la semaine dernière s'est terminé le concile convoqué par le pape pour débattre effectivement des grandes questions au cœur de l'Église. Et j'ai suivi cet événement, entre autres, un des problèmes sur lequel les débats ont failli achoper a été, je crois, le problème du statut des chrétiens divorcés.
Oui, oui.
Voilà, est-ce qu'ils ont droit au sacerdoce, à la communion, etc. Je crois que c'est comme ça qu'une société évolue, qu'une religion évolue, c'est-à-dire qu'en fonction des problèmes qui se posent, qu'on ait le courage de se regarder droit dans les yeux, d'en débattre, et puis à la fin que celui qui a le mandat de prendre la décision finale et dans le cas d'espèce le pape qui puisse se prononcer là-dessus. Et dès qu'il s'est prononcé, on doit respecter ce qui a été décidé.
Alors, professeur Kamdem, vous êtes quand même professeur hors échelle des universités, directeur de l'ESSEC depuis bon nombre d'années. Et bon, chrétien, vous n'avez pas une carte d'un parti politique?
À vrai dire, l'activité politique est secondaire.
Et même si elle est là.
Même si elle est là. Non, elle est là, c'est-à-dire dans la société, dans l'environnement, oui.
Ah, d'accord.
Mais en tant que militant politique, j'avoue que ce n'est pas tellement dans mes préoccupations. Pour une raison simple, la densité du travail d'enseignants, chercheurs, la densité du travail administratif de direction d'un établissement universitaire.
De l'envergure de l'ESSEC, faut-il
bon,
le dire.
De l'envergure, merci pour votre témoignage. Tout cela fait que disposer du temps pour s'engager en politique, c'est pas évident. Et puis, de mon point de vue, l'engagement politique, il faut le faire quand on est disponible et surtout quand on est prêt. Et trouver le temps nécessaire. Pour le moment, ce qui me préoccupe davantage, c'est la formation, c'est la recherche, c'est de faire en sorte que toute cette jeunesse qui attend de nous des réponses à leurs préoccupations de formation, de chômage, d'accompagnement, c'est d'être plus à la disposition de cette jeunesse, c'est de faire en sorte que toutes ces entreprises qui attendent de nous, universitaires, des solutions adaptées à leurs problèmes de compétitivité économique, d'internationalisation de leurs entreprises, que nous puissions, en tant que chercheurs universitaires, leur apporter des solutions appropriées. Et donc vous voyez vous-même que l'immensité du travail à faire ne permet pas de pouvoir disposer du temps nécessaire pour être engagé de façon active en politique.
Mais voyez-vous, professeur, il se trouve que dans le monde universitaire, c'est devenu le laisser-passer pour pouvoir accéder à des fonctions plus importantes. Vous êtes directeur aujourd'hui, peut-être que vous souhaiteriez être recteur quand même.
Non, je ne me plains pas d'être directeur. Si je m'en plaignais, bon, j'aurais demandé à partir. Et puis, on travaille. C'est normal qu'on ait une ambition, hein, parce qu'il ne faut pas se le cacher. On a une... Mais l'ambition, ce n'est pas toujours être recteur. Vous savez, pour un universitaire, l'ambition, ce n'est pas d'être recteur. L'ambition, ça peut être de diriger une équipe scientifique. Ça peut être, d'assurer la diffusion au plan international de ce que l'on fait, améliorer, par exemple, l'image d'un pays. Il y a des pays aujourd'hui qui ne rayonnent que grâce à la reconnaissance internationale que la communauté internationale a de leurs scientifiques, de leurs hommes d'affaires, etc. Donc, il ne faut pas penser que pour un universitaire, la reconnaissance, c'est toujours la promotion à un poste administratif
ou politique.
Non, c'est ou politique, ouais. C'est pas ça le métier. C'est pas ça le métier d'enseignant-chercheur universitaire. Le métier d'enseignant-chercheur universitaire, c'est la recherche, c'est l'enseignement, c'est la recherche, c'est l'innovation et c'est la créativité.
Et vous pensez avoir déjà rempli, professeur hors échelle, d'avoir déjà rempli ces tâches. Vous avez été créatif, vous avez cherché. Parce que, mine de rien, professeur, il y a une question qui revient toujours. Le Cameroun est bourré de scientifiques, surtout en matière de management, en matière de sciences économiques, en matière de gestion, mais... notre économie va comme elle va.
Oui.
Où sont donc ces scientifiques?
Vous avez raison. Je suis de votre avis. Si nous regardons, par exemple, le dernier classement du Doing Business publié par la Banque mondiale, le 27 octobre, nous constatons malheureusement que notre pays, le Cameroun, a encore chuté. On est passé de la 168e place, à la 172e place sur 189 pays évalués, à côté d'autres pays. Je veux dire, comparativement à d'autres pays, je pense à Maurice, je pense au Rwanda, et même à la Côte d'Ivoire, au Maroc, à la Tunisie, au Sénégal, qui sont des pays nettement mieux classés que nous.
Et dont on ne vendrait pas cher la peau.
Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a encore énormément d'efforts à faire dans notre environnement économique pour permettre à notre économie d'être suffisamment attractive, attractive vis-à-vis d'abord des investisseurs locaux, pour qu'ils n'aillent pas toujours investir ailleurs, et vis-à-vis d'investisseurs étrangers. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire et nous le vivons, nous le voyons tous les jours, les problèmes d'infrastructure dans une ville comme Douala, c'est pas évident de se déplacer d'un quartier à l'autre, surtout en saison de pluie. Bon. C'est pas évident de se déplacer d'une ville à l'autre dans notre pays avec l'état des routes.
Ce qui impacte sérieusement le rendement des
entreprises. Ce qui impacte sérieusement les problèmes de transport. Comment fonctionne notre compagnie aérienne aujourd'hui? Pratiquement tous les Camerounais qui voyagent à l'étranger ont tendance à prendre des compagnies étrangères parce qu'on estime que notre compagnie aérienne ne répond pas encore suffisamment aux attentes.
Notre compagnie aérienne bat de l'aile.
Voilà, il en est également de l'approvisionnement électrique avec tous ces problèmes de coupure, de délestage, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, tout simplement pour dire qu'il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à faire de mise à niveau de notre environnement économique pour que nous puissions améliorer au cours des années futures notre classement en matière d'attractivité économique.
Et pour cela, quelles sont les propositions, par exemple, que ferait le scientifique à la matière que vous êtes?
Bon, les propositions, on peut déjà les lire à travers les grands axes stratégiques définis par le gouvernement en matière de plan d'urgence arrêté par le chef de l'État et mis en œuvre déjà. Et même... le document stratégique pour la croissance et l'emploi fixe déjà quelques grandes orientations en matière d'amélioration de l'environnement des affaires et du climat d'investissement. Je crois que le plus important ici, c'est d'éviter l'inertie. C'est-à-dire quelque chose qui doit être fait dans les délais. Parce que si ce n'est pas fait dans les délais, le temps est continu. Le temps n'attend pas ceux qui attendent. Si vous
il
vous
ne
arrêtez,
suspend point son
le
vol.
Le temps ne suspend point son vol. Si vous vous arrêtez à un moment donné, le temps, lui, il continue. Et dire que le temps continue, ça veut dire que tous ceux qui sont autour de vous, et en l'occurrence tous les autres pays avec lesquels nous évoluons dans le même environnement africain, autre, eux, ils n'attendent pas, ils évoluent. Donc, il est important que nous comprenions, et là, ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de l'ensemble de la collectivité nationale. Chacun, à son niveau, comprenne que ce que j'ai à faire, je dois le faire d'une certaine manière, en respectant un certain délai. Qu'on soit journaliste comme vous, qu'on soit universitaire comme moi, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit dirigeant politique, il y a là une nécessité à ce que chacun puisse assumer personnellement la responsabilité de ce qu'il fait et que chacun à son niveau puisse poser l'acte qu'il faut pour atteindre les objectifs fixés. Donc c'est une responsabilité collective, à la fois individuelle et collective.
Mais justement, professeur, c'est cela même, la responsabilité qui est liée à la chaîne sociale. Mais au Cameroun, on a l'impression que nous en sommes à trop de documents, documents de stratégie, documents de planification, plans d'urgence et autres et autres. Mais à quand véritablement la pratique?
Oui, bon, vous faites, je suppose, référence à l'excès de bureaucratie dans le fonctionnement de nos organisations. Cela, je partage dans une certaine mesure cet avis, dans la mesure où nos organisations aujourd'hui héritent dans une certaine mesure d'un système où l'État était le maître absolu. L'État devait tout faire. L'État devait créer de la richesse, l'État devait créer des emplois, l'État devait, etc. Aujourd'hui, on évolue vers un autre système dans lequel l'État devient de plus en plus un régulateur institutionnel. Ce sont d'autres acteurs qui deviennent les vrais opérateurs en matière de création de richesse, en matière de création d'emplois, je pense aux entreprises. On évolue vers un système dans lequel aujourd'hui la société civile prend de l'importance. C'est qui la société civile? C'est nous tous, c'est les citoyens. Donc on est encore, je le reconnais, prisonnier des conséquences d'une très longue période où
l'État-providence
voilà, était le maître absolu. Et cela rentre aussi dans les mentalités. Parce que c'est bien de dire ce qui ne va pas, mais aussi il faut se dire qu'il y a toute une éducation à faire au niveau même du mental pour amener chaque citoyen à comprendre que désormais ce n'est plus l'État, le maître absolu, qui doit tout faire pour les citoyens. Et je crois qu'il y a un problème de formation à la citoyenneté pour apprendre à chaque individu, à chaque citoyen, quel rôle, quelle mission il doit accomplir. Évidemment, l'État est là, l'État est présent. Heureusement d'ailleurs qu'il est là, parce que sinon, ce serait l'anarchie totale. Mais ce qui change simplement, c'est le positionnement de l'État, qui n'est plus au centre pour tout contrôler, voire pour empêcher d'évoluer, mais qui est désormais là pour fixer les règles du jeu et pour contrôler la mise en pratique effective et respectueuse des règles du jeu qui ont été élaborées.
Voilà, nous allons respirer une fois de plus, professeur, et nous viendrons pour la dernière partie de cette émission.
Thank you.
konji wa we no he Obo dimba meze Uke di pe ondu tamie Na matimbi se sonde wa masoma
Il s'appelait Joe Mboulet et il a été porté en terre hier, ici même à Douala. J'imagine que, professeur, vous l'avez connu, mélomane.
Oui, j'ai connu Joe Mboulet. J'ai eu l'occasion d'assister au moins à deux de ses concerts et j'ai été vraiment très attristé par l'annonce de son décès, vraiment prématuré, parce que musicien talentueux qui meurt à cet âge, je crois que c'est une perte, une très grande perte pour la musique camerounaise et même pour la musique africaine.
Peut-être lui n'a pas eu la chance de transmettre son savoir tel que vous à beaucoup de jeunes.
C'est dommage, je pense qu'il aurait pu continuer encore à transmettre son savoir et à accompagner de jeunes artistes, de jeunes musiciens. Mais la volonté du Seigneur est ce qu'elle est et nul ne peut résister à son appel.
Nous nous interdisons d'ailleurs de critiquer cette souveraine volonté qu'il repose en paix, Joe Mboulet. Alors, professeur, nous rentrons dans le dernier quart d'heure à la limite de l'émission. Directeur de l'ESSEC depuis 1999, j'aime insister là-dessus, hein, professeur, depuis 1999, c'est quand même beaucoup. Alors, pour cette année, la rentrée académique a déjà été lancée. Ce sera la même reprise ou alors cette année quand même, il y a un auditeur. Nous prenons d'abord l'auditeur. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour. Allô? Il a des soucis, l'invité. Allô? L'auditeur, je veux dire. Allô? Voilà, nous prendrons plus tard. Non, il n'est pas là. Professeur, cette année, ce sera le même train-train quotidien. Les étudiants sont venus dans des salles de classe plus ou moins relookées. Rien de nouveau sous le soleil à l'ESSEC?
Bon, il y a quelques innovations, déjà au niveau des infrastructures, nous avons fait l'effort d'améliorer le confort dans nos salles de classe. Désormais, nos deux grands amphithéâtres, l'amphithéâtre Chunjan, c'est-à-dire l'amphi 200, et l'amphithéâtre Ndioro, l'amphi 100, sont climatisés pour améliorer le confort des enseignants et des étudiants. Nous allons réouvrir cette année nos deux laboratoires informatiques qui ont été entièrement relookés avec des machines neuves, donc pour améliorer la qualité de la formation de nos étudiants en informatique. Nous allons démarrer effectivement les activités au sein de notre centre d'incubation des entreprises qui a été inauguré au mois de février dernier par Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, Monsieur le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale, de l'artisanat, que je tiens profondément à remercier ici parce que il nous a doté d'une subvention consistante nous permettant d'assurer le fonctionnement de ce centre. Donc voilà en gros les quelques innovations avec lesquelles nous allons démarrer. Et tout ceci bien sûr sous la supervision directe du recteur de l'université de Douala qui ne cesse de nous encourager dans le développement de l'institution.
Un centre d'incubation pour les entreprises, professeurs, ne serait-ce pas là une manière de préparer vos étudiants peut-être à l'entrepreneuriat personnel, à ne plus trop compter sur les entreprises qui sont à l'extérieur ou l'État comme employeur?
Ça va dans le sens de nos échanges il y a quelques
lors des forats avec les entreprises.
Voilà, l'idée c'est que nous ne formions pas que des managers, mais que nous formions aussi des personnes capables de créer, de créer de la richesse, de créer des entreprises. Nous offrons déjà des programmes de formation diplômants en matière d'entrepreneuriat, de gestion des projets, de gestion des petites et moyennes entreprises. Il était nécessaire que ce processus de formation soit doublé ou accompagné par un processus d'incubation qui va donc consister à la sélection de quelques projets innovants et à l'accompagnement de ces projets afin qu'au terme du processus d'incubation, les porteurs de projets puissent devenir leur propre employeur en créant leur entreprise.
Et la promotion maintenant qui va être faite, parce qu'un centre d'incubation quand même, est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte une transposition de guichet unique des PME?
Non, non, pas du tout. C'est un centre, c'est un incubateur universitaire.
Ah, d'accord.
Donc qui vise à prolonger le travail académique qui est fait par les enseignants.
Auditeur en ligne, allô? Allô? Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Oui, comment je vous appelle, monsieur?
Oui, Madiba Bena, j'appelle depuis Bonapiso.
Monsieur Madiba, bienvenue sur Cuisinez-moi.
Merci. Alors, j'aimerais poser une question au directeur.
Oui, allez-y, nous vous écoutons.
Alors, monsieur le directeur, pourquoi l'ESSEC reste toujours comme une société remplie de mystères pour y accéder?
Oh là là, oh là là, une société...
L'ESSEC, pour, même bien quand tu fais le concours, tu n'as pas de chance.
Non, je...
On dit que c'est par réseau, si ton père n'est pas tel ou au ministre.
Je pense, monsieur, que...
C'est
vous...
tout, monsieur Madiba? Merci bien, bonne journée à vous, bon dimanche, professeur.
Oui, je pense que monsieur Madiba exagère un peu. Écoutez,
il y ajoute de l'eau.
Oui, il y ajoute de l'eau, non. Je pense pas que tous les candidats déclarés admis au concours d'entrée à l'ESSEC, résultats qui ont été publiés par le ministre de l'enseignement supérieur jeudi dernier, hein, il y a quelques jours, je pense pas que tous ces candidats puissent vous confirmer qu'ils ont été admis à l'ESSEC parce qu'ils ont été vraiment coachés, soutenus ou fils d'eux. Et, il y a fondamentalement le travail qui est fait par les uns et les autres. C'est pas un mystère. Il faut travailler. On peut échouer au concours une fois, la deuxième fois on réussit, la troisième fois, bon, nous avons des candidats qui après deux ou trois sessions réussissent finalement. Donc je crois que c'est pas tout à fait exact de croire que ce qui se fait à l'ESSEC c'est un mystère, non. Sinon, à quoi serviraient les concours d'admission? On se contenterait de choisir les bonnes personnes entre guillemets, donc celles qui ont une carte de visite. Comme vous le dites, non, je crois que ce n'est pas exact.
Alors, professeur, un laboratoire informatique qui n'est rénové que maintenant, ça pose quand même un problème, non? Ça veut dire que vos étudiants ont passé du temps à travailler avec des Pentium 1? alors que nous sommes à la pointe de la technologie.
Le renouvellement, la rénovation plutôt, elle se fait périodiquement. Je crois que si mes souvenirs sont exacts, la dernière période de rénovation date il y a 5 ou 6 ans. Donc cette fois, nous allons acquérir de nouvelles machines up-to-date, des logiciels. C'est d'ailleurs déjà fait puisque tout est installé et les cours devraient normalement s'y dérouler. Donc c'est un processus qui se fait après un certain nombre d'années. Bien sûr, vous pouvez nous faire la critique en disant, bon, attendre plus de 5 années pour renouveler un laboratoire informatique, il faudrait le faire chaque année ou il faudrait le faire tous les 2 ans. Mais je pense aussi qu'il faut tenir compte du statut de l'école. Nous sommes un établissement public évoluant dans une université d'État disposant de ressources limitées pour son fonctionnement et on ne peut faire que la politique de ses moyens.
Disposant de ressources limitées pour son fonctionnement, mais professeur, l'ESSEC fait quand même beaucoup de gombo, entre guillemets. Compte tenu de ce que vous l'avez évoqué vous-même, il y a des formations en cours du jour, en cours du soir. Il y a cette ce gros morceau qui est la formation MBA, qui ne coûte pas à la bourse du Camerounais ordinaire. Qu'en est-il de ces ressources-là? Quelle est la gestion qui choisit ces ressources?
Bon, je pense qu'il faut beaucoup relativiser votre affirmation, dire qu'on fait beaucoup de gombo. Je suppose quelle idée vous mettez derrière ce terme gombo.
Non, quand... C'est pour cela qu'il était entre guillemets professeur.
Bon, d'accord. Bon. Si on regarde la structure de nos effectifs au cours de l'année écoulée, c'est grosso modo 1516 étudiants représentés par 28% d'étudiants en formation continue, MBA et autres cours du soir, et 72% d'étudiants en formation initiale. Ces 72% d'étudiants en formation initiale, ils payent 50 000 francs par an. Et c'est les 28% d'étudiants en cours du soir, oui, qui paye pour chaque filière de formation continue 800 000 francs CFA par an. Bon, est-ce que c'est dire que nous faisons, pour reprendre votre expression qui ne me plaît pas beaucoup, je parlerai plutôt de recettes que de gombo.
Nous la retirons.
Est-ce à dire que nous faisons beaucoup de recettes? Je pense que nous faisons des recettes qui permettent de compléter déjà les subventions que nous recevons du gouvernement, mais ce ne sont pas des recettes excessives, sinon on ferait ce que vous avez évoqué tout à l'heure, on se permettrait de renouveler nos équipements, nos laboratoires informatiques chaque année. Donc nous disposons de quoi fonctionner, sans pour autant que ces recettes permettent de couvrir l'entièreté des charges académiques, administratives liées au fonctionnement de l'établissement. Parce que pour dire la vérité, les institutions universitaires, surtout publiques, si elles devaient fonctionner comme une entreprise, je crois qu'elles mettraient la clé sous le paillasson. Parce que c'est des institutions qui ont aussi une vocation sociale. Une institution universitaire publique n'est pas une institution universitaire privée. Une institution universitaire privée peut agir dans le sens de dire nous allons relever les coûts de formation, les frais de scolarité. Mais une institution publique a une mission
de service public.
Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à ce jour, les frais de scolarité sont maintenus à 50 000 francs CFA. Et vous convenez avec moi que payer 50 000 francs CFA par année pour obtenir multiplié par 3, c'est-à-dire 150 000 francs CFA, voilà, pour obtenir une licence professionnelle,
c'est dénudé de tout gombo.
Voilà.
Merci, professeur. Et il y a un autre souci, parlant de l'enseignement. Beaucoup de vos collègues ont tendance à viser les fonctions administratives et délaisser l'enseignement et la recherche à la limite. Il y a comme une ruée vers les fonctions administratives, les postes et tout le reste. Que répondez-vous à cela?
C'est un choix personnel. Mais si j'avais un avis personnel à émettre, je dirais que quand on choisit ce métier très difficile, parfois ingrat, dans notre environnement. Parce que quand on est enseignant universitaire, et ce que je dis est valable pour l'enseignant des lycées et même de l'école primaire, on n'est pas le mieux payé.
Du tout.
On n'est pas le mieux payé. Donc on est d'accord.
Nous en savons quelque chose.
Très bien. Et donc, il peut arriver que, effectivement, compte tenu de l'immensité des tâches, parce que l'enseignant, il travaille en classe, il travaille à la maison, il doit corriger les copies, il doit préparer les cours, il doit renouveler ses connaissances. Qu'il peut arriver qu'effectivement, les collègues estiment que le gain n'est pas à la mesure de leur permettre d'améliorer leurs prestations et donc recherchent des ressources additives à travers des fonctions administratives ou à travers des activités de consultation en entreprise. Oui, cela existe. Je crois que le plus important, c'est de ne pas perdre le souci premier de qui suis-je quand je choisis d'être enseignant, chercheur. Qui suis-je, c'est-à-dire quelqu'un qui a la responsabilité d'assurer l'avenir de toute une génération. Quelqu'un qui a la responsabilité d'innover. Quelqu'un qui a la responsabilité d'être un modèle. Parce que voyez-vous, nous avons été tous élèves quelque part à un moment donné.
Tout à fait.
Et nous avons toujours eu devant nous des enseignants. Et quand on regarde bien, quand on étudie par exemple le profil aujourd'hui de beaucoup de personnes dans le monde en général, quand on discute avec des personnes sur la construction de leur plan de carrière, ces personnes font parfois référence à l'image, à la figure marquante de quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça a été peut-être son instituteur, son institutrice, son professeur au lycée, son professeur à l'université. Et je crois que c'est un élément extrêmement important que l'avenir de toute une génération se construise en fonction d'un modèle. Et ce modèle, c'est celui qu'on retrouve dans les institutions universitaires. Ça, c'est un souci qui devrait faire en sorte que l'activité d'enseignant-chercheur, je la vis personnellement comme une activité sacrificielle. C'est-à-dire qu'il faut accepter de faire des sacrifices tout en sachant, comme je l'ai dit, il y a un moment que dans notre contexte africain, camerounais, on n'est pas le mieux payé, on n'est pas celui qui va gagner sa vie autant que celui qui va travailler en entreprise. Les étudiants que nous diplômons dans notre école, il y en a un certain nombre, beaucoup qui pour leur premier emploi se retrouvent avec un niveau de salaire qui est le double
de celui de l'enseignant.
Et si vous regardez les choses de ce côté, vous vous dites, ça vaut pas la
peine.
Autant mieux abandonner. Et si on abandonne tous, il n'y aura plus d'université parce qu'il n'y aura plus d'enseignants.
Voilà, cuisinez-moi. Le professeur Kamdem était sur le grill ce dimanche. Mais c'en est terminé pour la cuisine de ce jour. Alors, professeur, il ne reste plus qu'à servir et à déguster. Et votre avis, vous étiez dans notre cuisine pendant 2h30, 2h, 2h.
Très agréable. C'est pas la première fois que je suis invité à cette émission et chaque fois que je suis venu avec un très grand plaisir, j'en suis reparti avec un plaisir encore plus renforcé. La perspicacité de vos questions, posées sans complaisance, j'espère avoir apporté des réponses peut-être pas très satisfaisantes, mais en tout cas qui permettent d'en savoir davantage Donc, j'apprécie beaucoup ce travail d'information que vous faites. Vous avez évoqué un certain nombre de questions qui, pour moi, relèvent davantage de la rumeur. J'espère avoir apporté des clarifications. En tout cas, je vous félicite pour le travail effectué et je reste toujours disponible chaque fois que vous aurez besoin de moi pour en savoir davantage sur l'ISEC de Douala.
Donc, vous êtes prêt à vous faire recuisiner une autre fois, peut-être à l'étouffer cette fois-là?
Tout à fait prêt.
Eh bien, tout est bien qui finit bien. Nous avons été heureux de vous servir un mois durant à la présentation de cette émission. Vous retrouverez certainement une autre équipe de présentation de Cuisine et Moi parce que moi, je suis appelé à servir à d'autres lieux la nation camerounaise, n'est-ce pas? La grande équipe de production de cette émission était constituée de Jeanne Guéa à la régie d'antenne, Samuel Maud était à la mise en onde. Nous avons bénéficié du soutien et de la collaboration de Guillaume Onambélé à la réalisation ainsi que celui de Laurent Loué. Je m'appelle Franck Diam, portez-vous bien, bon dimanche et bon appétit. Sontanele tobunya.